Je suis Marion Ruggieri et dans Les Vagues, un podcast de Elle, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi ce moment où elles se sont senties déplacées. Je me rends chez elles, ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues, un mardi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute!
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elle.
Une fois qu'on a apprivoisé son nouveau corps, que notre partenaire a compris comment on fonctionnait, la sexualité, c'est la même que pour tout le monde. C'est la même. Par contre, c'est une sexualité adaptée. Voilà, comme tout le reste avec le handicap, c'est on s'adapte.
Comment se réapproprier un corps en vrac? Comment éprouver et donner du plaisir lorsque le corps ne répond plus? C'est les questions que se pose Romain, dont la vie bascule il y a 11 ans alors qu'il perd l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de ski. Il est en couple et s'apprête à devenir père. De médicaments en sextoys, de forum en sexologue, Romain nous raconte non sans humour sa quête pour vivre sa sexualité d'une autre façon. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, le nouveau podcast de Elle.
Il y a 11 ans, dans ma vie, est survenu un accident. Voilà, j'étais sapeur-pompier à l'époque, j'habitais en Haute-Savoie. Et à la sortie d'une garde, en fait, où je travaillais, on a décidé d'aller se faire une petite sortie ski avec des amis. Et sur les pistes, j'ai eu un accident, une collision avec quelqu'un. Ça m'a envoyé en avant, j'ai ratterri sur la tête. Et lorsque j'ai ratterri, en fait, ça m'a créé une fracture cervicale qui est venue taper, en fait, sur la moelle épinière. Effectivement, j'ai ma compagne à l'époque, elle a appris mon accident, elle était au travail, donc en Suisse, elle travaillait en Suisse. Forcément, le choc, hein, à l'époque en plus, elle est enceinte de 2 mois à peu près. On attend une petite fille, donc évidemment, je pense que dans sa tête, il y a tout qui se chamboule, quoi, parce que au début, j'ai le pronostic vital qui est engagé, donc on ne sait même pas si je vais. Enfin, elle ne savait même pas ce qu'il allait en être, est-ce que j'allais m'en sortir ou tout ça, donc bah forcément, c'est compliqué pour elle. Je me réveille peut-être à peu près, avec, même si j'ai des petits flashs, mais je me réveille à peu près 48 heures après l'accident. Voilà, donc je sais que pour l'instant, je suis paralysé. Bon, ok, ça fait beaucoup à digérer, ça. Mais à l'époque, je me dis, voilà, c'est comme ça. Mes jambes ne fonctionnent plus, je n'ai plus d'abdominaux. On va dire qu'au niveau lésion, ce qui me reste, c'est à peu près une ligne imaginaire au niveau des mamelons. Et en fait, au-dessus, je sens et ça fonctionne. En dessous, je sens plus, ça fonctionne plus. J'étais devenu donc tétraplégique, C6, C7. Moi, à mon niveau, en règle générale, on arrive à être en fauteuil manuel. Après tout, maintenant, il va falloir apprendre à vivre comme ça. Et puis, comme m'a dit le chirurgien, peut-être que ça va revenir, peut-être que ça ne reviendra pas. Eh bien, écoute, on va partir en se disant que peut-être ça va revenir. Et puis, on va tout de suite commencer à se battre pour avancer. Et c'est une chance pour moi de savoir que je vais être papa. Parce que justement, c'est ce qui me pousse à me dépasser. C'est ce qui me pousse justement à avoir cette force de me dire « Écoute, t'as une petite fille qui va naître, qui a besoin de son papa. Elle s'en fout que son papa il soit handicapé ou pas. Tu dois être là pour quand elle va arriver. » Très rapidement, j'observe qu'il y a des choses qui changent dans mon corps. C'est-à-dire que déjà, à l'hôpital, il faut savoir que dans les 3 premières semaines, peut-être le premier mois, je perds 12 kilos déjà. Et j'ai une fonte musculaire qui est importante, et c'est vrai que moi, je vois mon corps se transformer, et je me dis, mince, après toutes ces années passées à essayer de le sculpter, j'ai tout foutu en l'air. Donc compliqué à avaler que le fait que bah, tu vas avoir un bidou, il n'y a plus d'abdos, les pectoraux c'est pareil, j'ai qu'une partie qui fonctionne. J'ai un peu de mal avec ce corps au départ, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai mis du temps à l'accepter. Toutes les questions autour de l'intimité, du couple, viennent en fait un petit peu plus tard. Ça vient en rééducation. Ça vient quand en fait on a commencé à stabiliser le béaba, à savoir la respiration, à savoir arriver à vivre assis un peu plus longtemps que 10 minutes avant de tomber dans les pommes, gérer les problèmes de... parce que ça existe, hein, les problèmes de pipi-caca au départ, voilà, qui sont assez compliqués à gérer. Une fois qu'on commence à appréhender un petit peu tout ça, là, effectivement, il y a ces questions qui se posent de la sexualité, comment ça se passe, comment on va faire après pour aller sortir ensemble, aller au restaurant et autres. Donc, ça vient un petit peu plus tard, dans la rééducation, je dirais quelques mois après. Et effectivement, tu te dis, est-ce que je vais encore pouvoir avoir une sexualité? Et en fait, oui, tu constates par toi-même que, effectivement, ça marche plus parce que tu le sais. Tu sais, maintenant, tu as bien compris que les messages qui partent de ton cerveau passent par la moelle épinière, sauf que l'érection chez un homme, elle est située en dessous de ma lésion. Donc, le cerveau ne peut plus envoyer le message d'une érection à ton sexe. Donc ça marche plus. Et en fait, finalement, tu comprends que tu arrives à avoir cette érection plus de manière mentale, mais par contre qu'elle existe bien de manière mécanique et que dès qu'on a une stimulation du sexe, eh ben, on arrive à avoir une érection qui dure pas, mais on arrive à avoir quelque chose. Bon, la sexualité peut encore exister finalement. Et puis après, rapidement, les questions que je me suis posées... j'ai fait le curieux, j'étais cherché sur Internet, hein. J'ai trouvé mes réponses. Et une fois que j'ai trouvé tout ça, je regarde, tiens, alors il y a tel médicament qui existe, t'as des sextoys qui sont vraiment pour tout le monde, et que tu peux décliner, toi, avec ton handicap. Et après, il existe aussi des sextoys spécial handicap. Et ceux-là, après, une fois que tu les as trouvés, tu regardes comment ça marche, Et... Par contre, les sensations, je sens pas comme avant, je ressens différemment... Et effectivement, à ce moment-là, intervient la sexologue pour découvrir ce qui existe, découvrir comment ça marche, les mécanismes et autres, et que je puisse justement savoir si moi aussi je peux encore avoir une éjaculation, avoir des enfants et tout ça, toutes ces questions qui finalement ressurgissent à ce moment-là. Et puis après, la phase test, on essaye. Si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, je fais un autre traitement, puis un autre traitement, et puis ça, et puis ça, et puis ça. À l'époque, la peur principale que j'ai, moi, c'est de plus pouvoir donner de plaisir, en fait. Clairement, je me dis, mince, est-ce qu'on peut vivre en couple avec quelqu'un sans lui donner du plaisir? Je me dis, est-ce que c'est faisable? On s'essaye, on se dit, moi, faut savoir qu'au début, j'avais une sonde à demeure, en plus. C'est une sonde pour faire pipi. Avant, on a des petits moments câlins, d'intimité, de sexualité, mais sans pénétration. Par contre, moi, j'attends vraiment de plus avoir cette sonde. Et à ce moment-là, effectivement, là, on peut avoir notre réelle première fois. C'est à la maison. C'est un week-end où on est tranquille, on est posé. Il n'y a pas de stress du centre de rééducation. Est-ce que quelqu'un va rentrer, taper à la porte? Non, on est chez nous, posé. Puis on sent tous les deux qu'on en a envie, donc après, petit à petit, c'est des phases de préliminaires qui commencent le temps que ce fameux médicament agisse. Et il y a un côté où il faut appréhender une nouvelle façon d'avoir cette relation, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas me déshabiller tout seul. Je peux aider ma compagne à se déshabiller, mais moi, il faut m'aider à me déshabiller. Et ensuite, tout le reste, c'est pareil, tu te laisses faire. Donc voilà, c'est une découverte. C'est une première fois, et comme une première fois, c'est pas toujours une réussite. C'est le cas d'ailleurs, c'est pas une réussite, hein. C'est pas super. Mais on se dit qu'on a essayé, c'est la première fois, et que du coup, on réessayera à d'autres moments. Une chose qui change, et qui je pense nous plaît pas à tous les deux, c'est le côté où tu dois programmer le rapport. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce que, effectivement, quand tu prends des médicaments ou autres, il y a un laps de temps où ça marche. Faut pas prendre tel aliment, faut pas prendre tel alcool. Du coup, on perd cette spontanéité de l'instant où l'envie d'avoir un rapport sexuel, il peut venir spontanément. il peut venir à l'occasion après une belle soirée ou à n'importe quel moment dans la journée. Et tu l'as plus ce moment-là, en fait, parce que tu es obligé de programmer. Tu es obligé de te dire, bon, alors attends, ce soir, bon, on a prévu, du coup, il faut que je prenne le médicament à telle heure pour que ça fonctionne. Et c'est nul, en fait. C'est nul, ça gâche l'instant. Et après, des fois, tu essayes, toi, de te dire, allez, je sens bien la soirée, je prends un médicament, et pas de bol. Et finalement, il se passe rien. Bon, bah, tant pis, j'ai pris le médicament pour rien. Au-delà du fait que, du coup, tu te retrouves avec des érections pendant 3 jours involontaires, c'est surtout aussi que bah, c'est pas remboursé et que ça coûte très très cher. Donc, j'avoue, ça fait aussi mal au cœur quand tu prends ton médicament et que tu dis « Ah ouais, bon, bah, celui-là, il est jeté par la fenêtre, tant pis. » Bon, bah voilà, la spontanéité, elle n'existe plus. Ça, c'est dommage. C'est vrai que dans la relation aussi, là où j'avais peut-être tendance, avant mon accident, à être le dominant, on va dire, on inverse totalement les rôles. Et c'est pareil, c'est pas facile pour moi, mais c'est pas facile pour elle non plus, je pense, de se retrouver dans les rôles inversés, dans un rôle que peut-être elle n'a pas l'habitude de jouer, parce que dans sa sexualité avant moi, et même avec moi, on s'est habitué à avoir ces rôles, entre guillemets. Et du coup, ça change totalement. Et encore une fois, on en revient à cet effet de comparaison. Avant, on aimait bien, c'était bien, ça marchait bien. Et maintenant, ça marche un peu moins bien. Ça marche même beaucoup moins bien. Alors, en fait, on se sépare à peu près 3 ans après mon accident. Moi, le handicap m'a changé. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, donc on se sépare en bons termes, mais on se sépare. On voit qu'on est plus fait pour être ensemble. Voilà. Dès le début, elle me fait comprendre que même si je suis... Parce que ça a été une grosse, grosse crainte aussi pour moi, c'est de me dire, merde, je me retrouve papa, séparé, je suis handicapé, je suis tétraplégique, donc je suis même pas autonome, j'arrive même pas à m'occuper de moi tout seul. Entièrement, comment on va faire? Est-ce que je vais avoir le droit de m'occuper de ma fille tout seul? Et en fait, même si elle a eu peur, parce que ça, on a discuté après, de se dire, bah tiens, je laisse ma fille qui a moins de 3 ans, avec son papa qui n'est pas autonome. Mais elle l'a fait quand même. Et du coup, on a eu cette garde alternée, on n'a pas passé devant les tribunaux ou quoi que ce soit, on a toujours fait ça à l'amiable. Maintenant, à cette époque-là, je ne suis pas dans une optique de forcément chercher à trouver quelqu'un. Déjà d'une, au départ, j'en ai pas du tout envie. Et en fait... Je me dis surtout, est-ce que je plais encore, tu vois? Est-ce que physiquement je plais avec ce corps qui est différent, le fauteuil roulant? Je connais pas encore ce rapport de séduction à l'autre, j'ai pas eu besoin pour l'instant j'y ai pas été confronté, j'en ai pas eu besoin. Et ça commence à se mettre en place. Et en fait, c'est marrant, je découvre par la force des choses, en fait, que quand tu es dans un environnement où il y a, je sais pas, où il y a 100 personnes, je suis un homme, on va dire, il y a 100 hommes, une femme, qu'est-ce qu'elle va... Je sais pas, je me dis, qui elle va repérer? Elle va repérer peut-être le plus grand, le plus petit, celui qu'elle trouve le plus beau. Et quelque part, elle va repérer celui qui est en fauteuil roulant, parce que tu sors du lot. Et je me rends compte, en fait, c'est la période des balles, c'est l'été. Je fais pas mal de balles de pompiers. Et en fait, je remarque en fait souvent que... Il y a souvent des femmes qui me regardent, ou qui viennent même m'aborder. Et je me dis, tu vois, finalement, déjà d'une, tu peux peut-être encore plaire... Finalement, tout n'est pas foutu. Et surtout, le rapport homme-femme, quand t'es en fauteuil roulant, t'as l'impression qu'en fait, ça casse une barrière directe. C'est-à-dire que je rencontre des femmes et les femmes viennent me parler. Mais par contre, elles me posent des questions que tu poserais jamais à quelqu'un à un premier rendez-vous. Je veux dire, il y a des femmes que je vois dans des balles. Bon, même si t'as un peu d'alcool là-dessus, mais au bout de 5 minutes, on te pose la question si ça fonctionne encore, quoi. Mais je me dis, si moi je fais ça, je suis sur mes deux jambes, je fais ça en boîte de nuit avec quelqu'un, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer encore plus maintenant. Mais du coup, je me dis, tu vois, si tu peux plaire, parce que c'est aussi une crainte de me dire, est-ce que les femmes ne sont pas fermées à être avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant? Parce que c'est pas l'image de l'homme fort qui rassure, etc. Et je me rends compte qu'en fait, pour ma part, les femmes en fait sont très intelligentes. Il y en a qui, en fait, ne s'arrêtent pas au fauteuil et qui vont au-delà. La première femme que je rencontre réellement, avec qui on se voit, on va manger ensemble, avec qui on a un rapport, va me rassurer encore plus parce qu'en fait, elle a été avec quelqu'un pendant 2 ans qui était tétraplégique exactement comme moi. Donc en fait, elle connaît tout. Elle sait tout. Elle sait l'intimité que je peux avoir. elle connaît mes difficultés. Pour le coup, là, cette première fois avec elle, elle est super. Moi, je connais ma nouvelle sexualité. Et elle, ce qui est génial, c'est qu'elle... j'ai pas besoin de lui apprendre, elle connaît déjà, en fait. Donc là, je découvre cette deuxième première fois, on va dire, qui se passe très, très bien. Et moi, non, ça a été salvateur pour moi, parce que du coup, on s'est revus plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en fait, grâce à elle, non, effectivement, j'étais libéré de ce poids de me dire, je peux plus lui donner de plaisir. Je me suis dit, si avec elle ça marchera avec les autres. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours cette phase dans toutes les relations où il faut expliquer à la personne. Lui expliquer, lui dire ça, ce qui marche, ce qui marche plus, comment ça marche. Et voilà. Et là, par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui est indéniable et que j'avais peut-être pas avant dans ma sexualité, c'est une communication, mais cette fois-ci, une communication vraiment, on est sur du factuel, se dire vraiment, se dire les choses. Je suis plus dans une relation mono-orgasmique avec un plaisir auto-centré, pas du tout. Maintenant, j'ai besoin que ma partenaire prenne du plaisir. Si elle n'en prend pas, moi, j'en prends pas non plus. Voilà. Le handicap fait que tu as un degré d'intimité et tu offres un peu... J'ai l'impression d'offrir un peu une part d'intimité avec une femme avec qui j'ai une relation parce que c'est pas pareil, parce que je suis pas autonome comme n'importe quel homme et que... Il faut que je lui explique comment ça fonctionne, comment mon corps fonctionne, comment mon sexe fonctionne, comment va falloir m'habiller, me déshabiller, tout ça, toutes ces choses-là. Et ça fait que ça crée une bulle, en fait, si tu veux, autour de cette relation. On n'est plus sur du plan cul basique, ça n'existe plus pour moi. T'es obligé de te dévoiler. Tu te dévoiles à chaque fois, forcément.
Cet épisode de « Il était une première fois » a été tourné par Marjolaine Roger. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com